Xavier de Montépin, Le médecin des pauvres. Prologue. La nuit du 17 janvier. Chapitre 1. Pierre Prost. Nous prions le lecteur de vouloir bien remonter avec nous de près de 2,5 siècles dans le passé, ce qui nous reportera vers le commencement du 17e siècle, et nous leur demandons de nous accompagner dans cette vieille province de Franche-Comté qui, depuis Charles Quint, appartenait à l'Espagne. En l'an 1620, une demeure modeste, moitié maison, moitié chalet, s'élevait à l'entrée d'un vallon boisé, à 2 ou 3 portées de Mousquet de l'endroit où commence la déclivité de cette colline, sur laquelle se disséminent encore aujourd'hui les chaumières du hameau de Longchaumois. Cette maisonnette, plus vaste que les huttes voisines, ne se composait cependant que d'un rez-de-chaussée formant 2 pièces. Le grenier se trouvait immédiatement au-dessus de ces pièces. Autour de la maison s'étendait un enclos planté d'arbres fruitiers d'une médiocre venue et dont une clôture de houx défendait l'approche au bétail et aux maraudeurs. Une porte à claire-voie, ou plutôt une barrière mobile, se fermant avec un système de chevilles tout à la fois très incomplet et très compliqué, donnait accès dans la basse-cour, car on voyait quelques poules y picorer çà et là. Une chèvre, attachée au tronc d'un poirier par une corde lâche, y tondait l'herbe touffue, de manière à former autour de l'arbre un cercle dépouillé, aussi parfaitement régulier que s'il eût été tracé par les 2 branches d'un grand compas. Ce rustique logis était la demeure d'un homme qui jouissait à Longchaumois et dans tous les villages des alentours, à 3 ou 4 lieues à la ronde, d'une estime et d'une popularité parfaitement méritées. Cet homme, fils de simple cultivateur et presque paysan lui-même, se nommait Pierre Prost. Il n'était pas riche, tant s'en fallait, mais outre sa maisonnette, il possédait quelques champs dont le produit lui permettait de vivre, sans demander au travail manuel, son pain de chaque jour. Pierre Prost appartenait à la grande famille de ces hommes marqués au front d'un sceau divin, et de qui l'on peut dire au jour de leur mort, « Ils ont passé sur la terre en faisant du bien ». Quelle que soit d'ailleurs la position sociale dans laquelle le hasard ou la providence les ait fait naître. Faire du bien. Telle avait été en effet la constante préoccupation de Pierre Prost, dès sa jeunesse, et il n'était presque qu'un enfant encore, que déjà il se demandait de quelle façon il pourrait s'y prendre pour être sans cesse utile à ceux qui l'entouraient, et à l'aide desquels l'extrême médiocrité de ses ressources ne lui permettrait point de venir d'une certaine façon. Pieux, et même un peu exalté dans ses croyances, comme le sont généralement les paysans des montagnes, vivant loin des villes et du contact du monde, comme il l'était surtout à cette époque, Pierre Prost songea d'abord à se faire prêtre. Mais il y avait en lui je ne sais quel vague instinct d'indépendance que la rigidité de la discipline ecclésiastique épouvantait. Le jeune montagnard renonça donc à devenir le médecin de l'âme et résolut de se faire le médecin du corps. À 18 ans et sachant seulement lire et écrire, il s'en alla à Dôle pour y étudier. Dôle, aujourd'hui pauvre petite sous-préfecture, fort modeste et presque ignorée, possédait alors une très réelle et très sérieuse importance. Cette ville était le chef-lieu du principal des 3 bailliages de la Franche-Comté. Elle était en outre le siège du Parlement, dont les États généraux nommaient les membres et qui administraient la province. Au bout de 4 années d'un travail assidu, Pierre Prost revint à Longchaumois. Sa science aurait fait sourire dédaigneusement tout étudiant de nos jours, de seconde année et de moyenne force. Mais à cette époque, et dans ces montagnes sauvages et profondément inconnues, Pierre Prost était en vérité un médecin très habile et très savant. Ce jeune homme de 22 ans vécut à partir de ce moment, non pas pour lui, mais pour les autres. Il se fit le médecin des pauvres. Il passa ses jours et ses nuits à courir de la plaine à la montagne, portant ses secours et ses soins à tous ceux qui les réclamaient, et n'acceptant aucune rétribution pour ses fatigues et ses ordonnances. En médecine, l'habitude et l'expérience sont les deux tiers du talent. Aussi, Pierre Prost, dont l'intelligence était belle et l'entendement développé, ne tarda-t-il guère à devenir un praticien remarquable. Il fit des cures extraordinaires. La voix du peuple les grossit encore et cria presque au miracle. Bref, la réputation du médecin paysan grandit, de telle sorte qu'il fut appelé dans quelques manoirs et qu'il compta dans sa clientèle des dames châtelaines et des gentilshommes. Il ne se faisait en aucune façon prier pour accepter l'argent de ses nobles clients. Mais tout aussitôt, cet argent était déposé par lui entre les mains du vénérable curé de Longchaumois, avec prière de le répandre en aumône. Les médecins de ce genre ont été rares à toutes les époques, et très sincèrement, je crois que la race en est aujourd'hui tout à fait perdue. Cependant, il n'est peut-être pas impossible que je me trompe, et je souhaite me tromper. Le jeune Franc-Comtois menait depuis 10 années cette admirable existence de charité et de dévouement, quand il se prit d'amour pour une jeune fille des environs de Saint-Claude. Cette jeune fille n'avait pour dot que sa grande beauté, ses 20 ans et sa bonne réputation. Elle se nommait Tiennette le Vilain. Pierre Prost la demanda en mariage. Il avait alors 32 ans, mais il paraissait en avoir au moins 40, par suite des fatigues et des privations de toutes sortes qu'il supportait avec une héroïque insouciance. Sa taille était haute, sa figure expressive et belle, mais bronzée par le soleil et les vents. Son front dégarni, ses épaules légèrement arrondies. L'été, Pierre Prost portait un sarrau de toile bise. L'hiver, il s'habillait comme les paysans, d'un droguet gris très épais et grossièrement coupé par une tailleuse du village. En somme, il n'avait rien de ce qui pouvait séduire une jeune fille. Mais Tiennette le Vilain, qui n'était point romanesque, consentit avec bonheur et reconnaissance à devenir la femme du médecin de Longchaumois. Le mariage fut célébré le 14 janvier 1618. Pierre Prost put comprendre ce jour-là à quel point il était populaire et adoré dans le pays. Une immense multitude, venue de toutes les paroisses environnantes, se pressait autour de la petite église dans laquelle les deux époux recevaient la bénédiction nuptiale. Quand ils sortirent, lui fier et joyeux, elle toute rougissante sous sa blanche couronne de mariée, d'unanimes acclamations retentirent, et c'était à qui leur souhaiterait le plus haut longue vie, prospérité, beaux enfants, bonheur sans nuages et le reste. Certes, les populations n'eussent point témoigné cet empressement ardent et venu du cœur au premier président du Parlement de Dôle, le plus important magistrat des trois bailliages. Ce que furent dès l'abord les joies ardentes et chastes de cet intérieur, je ne saurais en aucune façon le raconter. C'est une lyre et non point une plume qu'il faudrait pour chanter ce doux poème d'amour honnête et de félicité domestique. Au bout d'un peu plus d'un an de mariage, Tiennette devint grosse. Pierre Prost attendait ce moment avec une impatience facile à comprendre. Il avait toujours aimé les enfants, plus que tout au monde, et l'idée d'avoir un enfant à lui, un enfant de sa Tiennette adorée, lui chatouillait le cœur d'une façon délicieuse. Hélas, l'homme sait bien ce qu'il désire, mais souvent une main inconnue se complaît à le frapper avec une sanglante ironie dans l'accomplissement même de ses vœux les plus caressés. Le 14 janvier 1620, c'est-à-dire 2 ans, jour pour jour, après son mariage, Tiennette mourut en mettant au monde une petite fille. Comment, en regardant se fermer pour toujours les beaux yeux bleus de cette femme bien-aimée, en voyant le dernier souffle s'exhaler de ses lèvres pâlies, en appuyant sa main sur son cœur qui ne battait plus, en comprenant qu'il était à tout jamais séparé de la douce et pure compagne de sa vie, comment Pierre Prost ne devint-il pas fou? C'est le secret de Dieu. Il est permis seulement de supposer que le montagnard, ainsi foudroyé, se souvint qu'il ne restait pas absolument seul en ce monde, et que Tiennette, expirée, lui léguait une pauvre petite créature, faible et chétive, pour laquelle il lui fallait vivre et combattre. Aussitôt qu'un homme, dans l'une de ces effroyables crises de l'existence, a triomphé des premières étreintes de la douleur et de la folie. Cet homme est sauvé. Tiennette était morte à 11 heures du soir. Le lendemain, au matin, après une nuit de lutte indicible et de torture sans nom, Pierre Prost avait triomphé. Il semblait calme. Seulement, des rides profondes se creusaient sur son front. Ses yeux disparaissaient à demi sous l'arcade sourcilière agrandie. Son visage dévasté était celui d'un vieillard et ses cheveux avaient blanchi. Le premier paysan qui vit cette figure étrange, cette pâleur de cadavre, ses yeux mornes et secs, recula avec épouvante et crut qu'un spectre lui apparaissait. « Mon ami, » lui dit Pierre Prost, tandis qu'un déchirant sourire contractait ses lèvres, « si je te parais changé, c'est que je suis bien malheureux. Tiennette est morte cette nuit. » Quelques heures après, tout le pays savait quel coup de tonnerre inattendu venait de frapper le médecin des pauvres. Et comme au jour de mariage, mais vêtus de deuil et les yeux en pleurs, les populations des paroisses voisines accouraient pour conduire jusqu'à sa dernière demeure, dans son suaire et dans son cercueil, cette belle et pauvre jeune femme qu'elles avaient accompagnée à l'autel, souriante et radieuse, sous sa virginale parure. Contre l'usage, Pierre Prost voulut assister à la sinistre cérémonie et conduire lui-même le deuil. Tant que le convoi fut en marche, aussi longtemps que durèrent les prières de l'église, le médecin fut impassible. À peine si, par intervalle, un tressaillement convulsif des muscles du visage venait révéler ses tortures intérieurement combattues. Mais lorsqu'on arriva dans le cimetière, lorsqu'on descendit le cercueil avec des cordes au fond de la fosse fraîchement creusée, quand les premières pelletées de terre tombèrent sur la bière avec ce bruit sourd et sinistre qui n'a pas d'équivalent parmi les autres bruits de ce monde, Pierre Prost ne put contenir les impétueux sanglots qui montaient de son cœur à sa gorge en soulevant sa poitrine comme le vent du nord-ouest soulève les vagues de l'océan. Il enfonça son mouchoir dans sa bouche pour comprimer les cris inarticulés qui jaillissaient de ses lèvres haletantes. Il se prosterna, ou plutôt il se précipita tout étendu sur la terre couverte de neige. Il appuya son front sur cette neige qu'on vit fumer et se fondre au contact de son crâne ardent. Lorsque la fosse fut comblée, lorsque le dernier verset du De Profondis eut retenti et vaguement répété par les lointains échos des montagnes se fut éteint dans le silence, Pierre Prost se releva. Il était redevenu calme, il venait de triompher pour la seconde fois. Alors plusieurs femmes l'entourèrent. C'étaient de jeunes et vigoureuses paysannes, tenant dans leurs bras de frais marmots dont quelques-uns se suspendaient à leurs mamelles rebondies. Et chacune d'entre elles lui demandait, comme une faveur spéciale et enviée, de la choisir pour être la nourrice de la petite fille. Le médecin des pauvres les remercia avec effusion, mais n'accepta point. Il avait décidé que la pauvre orpheline, privée du lait de sa mère, ne toucherait de ses lèvres le sein d'aucune autre femme, et n'aurait pour nourrice que la belle chèvre aux pies gonflées qui l'été tondait l'herbe autour des poiriers de l'enclos, et l'hiver, dans une petite étable attenant au logis, crignotait d'une dent délicate quelques poignées du foin aromatique recueillies sur les plateaux de la montagne et qu'embaumaient de leur senteur le thym et le serpolet desséché. Quelle que fût la volonté de Pierre Prost, chacun dans le pays s'était accoutumé à la regarder et à la respecter comme une volonté sage. Personne n'insista donc, et le médecin paysan regagna solitaire cette humble maison où, quelques jours auparavant, il trouvait à son retour le bonheur souriant, l'attendant sur le seuil, et où maintenant que la moitié de sa vie venait de s'en éloigner, il ne restait plus qu'un berceau près du foyer désert. Et qui sait même si ce berceau ne serait pas bientôt vide à son tour, car nous le répétons, l'orpheline était chétive et faible. Elle ne semblait point, comme certains enfants, s'attacher à la vie par des racines vigoureuses. Et l'une des principales raisons du refus de Pierre Prost de la confier aux soins d'une nourrice avait été le désir et presque la nécessité de veiller sur elle jour et nuit, jusqu'au moment du moins où sa constitution semblerait avoir repris un peu de cette force et de cette vitalité qui lui manquait d'une façon si complète. Du cimetière de Longchaumois à la demeure du médecin, il n'y avait qu'une distance de quelques centaines de pas sur la pente raide de la colline. Abîmé dans sa douleur, le front baissé, les mains inertes, le regard vague et perdu, Pierre Prost franchit lentement cette courte distance. Il poussa la porte de l'enclos sans même songer à la refermer derrière lui. Il entra dans la maison. Un vagissement plaintif l'accueillit. L'enfant pleurait. « Pauvre innocente créature !» murmura le médecin en la prenant dans ses bras. « À peine vivante, et la douleur t'assaille déjà. »« Ah ! Puisse Dieu dans sa bonté te rappeler à lui tout de suite, si tu dois souffrir un jour ce que ton père souffre aujourd'hui. » Prologue, chapitre 2. Une visite étrange. C'était la troisième nuit après la mort de Tiennette, et depuis 3 jours, la nature entière, comme si elle eût voulu se mettre à l'unisson du déchirement de l'âme de Pierre Prost, se livrait à d'effroyables convulsions. Cette nuit-là, la tourmente déchaînée, depuis déjà 72 heures, sur les sommets du Jura, semblait redoubler d'impétuosité, de minute en minute et presque de seconde en seconde. La neige, qui tombait sans relâche et dont s'emparaient au passage des tourbillons comparables à de gigantesques trombes d'air, formait de dangereuses avalanches sur les pentes abruptes des montagnes, comblait à demi les vallées et détournait de leur cours les torrents que ces barricades glacées forçaient à rebrousser chemin vers leur source. En traversant les forêts de noirs sapins séculaires qu'elle courbait comme des gaules flexibles sous son vol dévastateur, la tempête avait des bruits étranges, des sonorités presque fantastiques. Tantôt, c'étaient des sifflements, pareils à ceux d'une armée de dragons volants, emportés dans les airs par leurs ailes de feu, tantôt de grandes rumeurs poignantes et désolées. On eût dit alors que les montagnes gémissaient, que les pics perdus dans les nuages se plaignaient lamentablement, et que les rochers poussaient de longs sanglots. Puis retentissaient des détonations successives, dont les coups de tonnerre et le fracas de l'artillerie, par un jour de combat, ne pourraient donner qu'une idée très imparfaite. C'étaient les craquements d'agonie des vieux pins brisés par la tempête, puis tordus, soulevés, emportés comme des brins de paille. Il pouvait être 11 heures du soir. De grands nuages noirs et lourds couraient sur la surface du ciel, ainsi que des chevaux de bataille, interceptant d'une façon absolue la clarté pâle des étoiles. Et cependant, grâce à cette lueur bizarre qui se dégage de la neige couvrant le sol, les ténèbres n'étaient point opaques. Nous allons pénétrer dans la seconde des 2 pièces qui composaient, ainsi que nous l'avons dit, l'habitation du médecin. Cette pièce, assez large mais très basse et prenant jour sur l'enclos par 2 fenêtres étroites, avait un ameublement d'une simplicité toute primitive et ne différait guère que par certaines recherches de propreté des chambres occupées par les plus pauvres paysans du voisinage. Des planches de sapin à peine rabotées et ajustées grossièrement les unes à côté des autres formaient le plancher. Le plafond se composait de planchettes un peu plus minces, soutenues par des poutrelles presque brutes. Les murailles, blanchies à la chaux, avaient pour tout ornement quelques images représentant des portraits de saints et de martyrs, enluminés brutalement de couleurs vives et criardes, et encadrés dans de naïves légendes en verre. Le foyer ne se trouvait point au milieu de la chambre, selon l'habitude des chalets de la Suisse et de la montagne. Il y avait dans l'un des angles de la pièce une haute cheminée en pierre, sur le manteau de laquelle on voyait une statue de bois peint, figurant la Notre-Dame d'Einsiedeln. En face de la cheminée se trouvait le lit. Il était en bois blanc et disparaissait presque entièrement sous de longs rideaux sans plis, d'une étoffe de serge verte rayée de jaune. Une petite table de vieux chêne noir, à pieds tordus. Une immense armoire de noyer à panneaux sculptés. De ces armoires qui se transmettent de mère en fille dans les familles de paysans et qui contiennent dans leur profondeur tout le linge de la maison. 4 ou 5 chaises de bois et 2 escabelles composaient le mobilier. Il y avait en outre, au-dessus de la petite table, trois ou quatre rayons qui supportaient des livres de médecine. Et au-dessus de ces rayons, un assez beau Christ d'ivoire, cloué sur une croix d'ébène. Ce Christ était un cadeau de la noble dame abbesse du couvent de Baume-les-Dames, laquelle, dans une maladie très grave, avait été soignée et guérie par Pierre Prost. Enfin, auprès de la cheminée et sous la faible clarté qui tombait d'une petite lampe de cuivre, on voyait un berceau. Les racines amoncelées dans le foyer se consumaient lentement et sans donner de flamme. Il était, nous le répétons, 11 heures du soir, et les battements d'ailes de la tempête faisaient trembler et craquer la maison sous ses fondations ébranlées. L'un des volets, détaché par un coup de vent et presque arraché de ses gonds, heurtait furieusement la muraille qu'il frappait de seconde en seconde comme une catapulte. Pierre Prost, agenouillé près du berceau, et plus pâle encore que lorsqu'il suivait au cimetière la dépouille mortelle de Tiennette, n'entendait même pas ces bruits formidables qui remplissaient d'épouvante les bonnes gens de Longchaumois et leur faisaient croire, dans leur superstition naïve, que la fin du monde était proche. Penché sur la figure livide et décomposée de la pauvre orpheline, le médecin sentait une douleur nouvelle s'ajouter à ses cuisantes douleurs en contemplant le combat acharné de la mort et de la vie qui se disputait le corps chétif de son enfant. Et Pierre Prost comprenait bien que dans cette lutte suprême où la mort allait l'emporter, toute tentative de sa part serait vaine et tout secours impuissant. Oui, l'enfant était condamné. L'enfant allait mourir. La fosse à peine comblée de la mère allait se rouvrir pour recevoir la fille. Pour la sauver, pour la faire vivre seulement une heure encore, il faudrait un miracle de Dieu, il faudrait une résurrection. Non seulement Pierre Prost était un croyant, mais il était encore un fervent chrétien. Et cependant, ce miracle nécessaire pour lui garder sa fille, il ne songeait même pas à l'implorer de Dieu. Dans le paroxysme du désespoir qui l'étreignait, du découragement qui l'écrasait, il lui paraissait manifeste que rien de ce qu'il demanderait ne lui serait accordé. Il ne blasphémait point, il ne maudissait pas la main qui le frappait si rudement. Il ne pouvait ni pleurer, ni prier. Il s'engourdissait dans la souffrance avec une sorte d'amère volupté. Chaque minute en s'écoulant rapprochait l'enfant de la crise suprême qui devait l'emporter. Un râle convulsif soulevait la pauvre petite poitrine endolorie. Les lèvres devenaient tout à fait blanches. La figure semblait se fondre et s'effacer, comme un de ces masques de cire qu'on approche d'un foyer ardent. Le froid envahissait les extrémités. La mort venait. Pierre Prost voyait clairement tout cela. Il le voyait avec le cœur du père. Il le voyait avec la science du médecin. Il comptait les secondes. Et il s'étonnait que cette créature débile et à peine formée pût résister et souffrir si longtemps. Quelques minutes s'écoulèrent encore, puis la bouche de l'enfant s'entr'ouvrit pour pousser un cri qu'elle n'acheva pas. Son corps se tordit comme un sarment jeté dans un brasier. Le râle s'éteignit. Tout mouvement cessa. La mort était venue. Pierre Prost appuya longuement ses lèvres sur les lèvres muettes et glacées du petit cadavre. Ensuite, il se prosterna, la face contre terre, et lui, qui n'avait pas pu prier Dieu de lui conserver son enfant, il lui demanda avec ardeur de l'envoyer rejoindre Tiennette. Sa prière dura longtemps. Elle fut interrompue par un bruit subit et inattendu. On ouvrait la porte de la pièce dans laquelle se trouvait Pierre Prost. Ce dernier releva la tête et vit en face de lui, avec surprise mais sans terreur, trois hommes enveloppés de grands manteaux noirs, portant sur la tête de larges chapeaux de feutre à la mode espagnole, et, ce qui était plus étrange que tout le reste, cachant leurs visages sous des masques de velours noir. L'un de ces hommes dépassait les deux autres de toute la tête, et quoiqu'il fût revêtu d'un costume exactement pareil au leur, il y avait dans son attitude, dans ses bras croisés sur sa poitrine, dans le rayonnement de son regard, qu'on voyait étinceler à travers les trous du masque, il y avait dans tout cela un je ne sais quoi qui décelait tout d'abord l'habitude du commandement. On ne risquait pas de se tromper en affirmant que ces trois hommes n'étaient point égaux. Il y avait là à coup sûr un gentilhomme et deux valets. Certes, une semblable apparition, à cette heure et par cette nuit de tempête, était faite pour épouvanter les plus résolus. Mais tout homme absorbé par un grand et profond désespoir perd momentanément le sentiment de la peur, et cela se comprend sans peine. Pierre Prosse demanda donc, d'une voix que ses angoisses précédentes avaient affaiblie, mais qui ne tremblait pas, « Qui que vous soyez, soyez les bienvenus dans ma triste demeure, et dites-moi ce que vous voulez. » L'homme qui semblait le maître des deux autres, et que nous désignerons par ces mots le masque noir, répondit « Nous cherchons un homme du nom de Pierre Prosse. Vous êtes chez lui. C'est vous qui êtes cet homme ? C'est moi. Vous pratiquez la médecine, et vous passez pour être habile dans l'art de guérir. Je suis médecin, la vérité, mais non point habile, et si parfois Dieu s'est servi de ma main pour soulager, c'est lui, et non pas moi, qu'il faut glorifier. On a besoin de vous, reprit le masque noir. Préparez-vous à me suivre. Cette nuit ? À l'instant même. C'est impossible. Impossible, dites-vous ? Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, tout me manque à la fois. Le courage et la force, et presque la confiance en Dieu. Regardez-moi, vous qui me parlez, et vous verrez bien que je n'ai pas l'air d'un vivant, mais bien plutôt d'un trépassé échappé de sa sépulture. Que vous est-il donc arrivé pour vous accabler ainsi ? Il m'est arrivé ce qu'aucun homme, si féroce et si vindicatif que fût son âme, ne souhaiterait à son plus mortel ennemi. J'avais une femme que j'aimais de toute mon âme, et 100 fois plus que ma vie. Cette femme venait de me donner un petit enfant. Il y a 3 jours, ces 2 anges de mon foyer étaient là, vivants près de moi. La mère est morte il y a 3 jours. L'enfant est mort il y a 5 minutes. Vous voyez que j'ai le droit de vous répondre comme je le fais, que tout me manque à la fois, et que je ne peux pas vous suivre. Le masque noir s'approcha du berceau et regarda l'enfant dont le visage bleuissait rapidement. « Avez-vous vu quelqu'un cette nuit ? » demanda-t-il ensuite. « Personne que vous ? Ainsi, tout le monde ignore que cet enfant a cessé de vivre. »« Tout le monde ? » ?»« C'est bien. Mais, » murmura Pierre Prost, étonné de ses interrogations, « que vous importe cela ?» Le masque noir ne répondit pas. Il fit un signe à l'un des 2 hommes qui l'accompagnaient, et qui portait une lanterne de corne transparente. L'homme s'approcha. Le masque noir échangea quelques mots tout bas avec lui, puis, se tournant vers le médecin, il lui dit d'une voix impérative. « Donnez une pioche à cet homme, ou une bêche, ou quelque outil de jardinage avec lequel il soit possible de creuser la terre. Les outils que vous demandez se trouvent dans la pièce qui précède celle-ci. Que voulez-vous en faire ?» Le masque noir ne répondit pas plus à cette question qu'il n'avait répondu à celle qui lui avait été adressée un instant auparavant. Il fit un nouveau signe, et les 2 hommes masqués sortirent en même temps de la chambre. Le masque noir s'approcha de la fenêtre, et là, muet, immobile, il attacha son regard sur un point de l'enclos où ne tarda point d'apparaître la faible lueur de la lanterne de corne qui secouait la tempête. L'un des hommes tenait cette lanterne, tandis que l'autre se livrait à un travail bizarre, avec sa pioche et avec sa bêche. Après avoir écarté la neige, il creusait dans la terre durcie un trou large d'un pied, long de 2 et profond de 3. De chaque côté de ce trou, il amoncelait la terre et les cailloux qu'il venait d'en tirer. Quand cette besogne fut achevée, les hommes masqués quittèrent l'enclos. La lanterne disparut, et un instant après, un bruit de pas dans la première pièce annonça leur retour. Pierre Prosse s'était abandonné de nouveau à sa torpeur douloureuse, et il semblait avoir oublié complètement qu'il n'était pas seul. Le masque noir s'approcha de lui et lui toucha légèrement l'épaule. Le médecin ne tressaillit point. Il releva la tête, il attacha son regard sur son étrange interlocuteur, et il demanda « Que me voulez-vous encore ?» Le masque noir se tourna vers le berceau et dit à Pierre en désignant le petit cadavre. Voulez-vous ensevelir vous-même cet enfant, ou faut-il que l'un de mes compagnons se charge de cette besogne ? Ensevelir mon enfant ? S'écria Pierre Prosse. Pourquoi l'ensevelir maintenant ? La nuit sera longue encore. Il y a loin d'ici jusqu'au jour, et je ne veux pas me séparer si vite de ce pauvre corps. Dans 5 minutes, répliqua l'inconnu, ce corps reposera dans la fosse qu'on vient de creuser pour lui. Hâtez-vous donc de l'envelopper dans ses langes, qui lui serviront de suaire. Ou si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire à votre place. » Et comme le médecin semblait hésiter, l'un des hommes se dirigea vers le berceau et porta la main sur l'étoile qui couvrait la petite fille expirée. Un gémissement sourd, une sorte de cri rauque et inarticulé, s'échappa de la poitrine du malheureux père, à qui cet homme parut un profanateur sacrilège et qui, s'élançant vers lui, le repoussa rudement. Le personnage ainsi malmené mit la main sur un couteau de chasse pendant à la ceinture de cuir écru qui serrait son pourpoint autour de ses reins, et sans doute il allait se servir de ce couteau contre Pierre Prost, qui ne se serait pas défendu, mais un geste impérieux du masque noir l'arrêta. Le médecin avait saisi le frêle cadavre. Il l'entourait de ses deux bras et il l'appuyait contre son cœur, comme s'il eût voulu le réchauffer ou le défendre. « Mais enfin, pourquoi » balbutia-t-il. « Oui, pourquoi me l'enlever si tôt? De ma femme et de mon enfant, c'est tout ce qui me reste. Pourquoi m'envier cette lugubre joie de le garder au moins jusqu'au jour? Pourquoi m'empêcher de pleurer pendant quelques heures encore sur ses mains froides et sur ses lèvres mortes ?» Le masque noir haussa les épaules. « Et croyez-vous donc, répliqua-t-il avec une brutale hauteur, croyez-vous donc que je me mêlerai de vos affaires de famille si quelque puissant intérêt, que vous n'avez pas besoin de connaître, ne me poussait à intervenir ? L'heure avance, le temps marche, il faut en finir, il faut que cet enfant disparaisse, et qu'il disparaisse à l'instant. Il le faut, je le veux. Hâtez-vous donc, je vous le répète, si vous tenez à l'ensevelir vous-même. Sinon je vous jure que dans moins du quart d'une minute, on va vous l'enlever de force. » Au ton dont furent prononcées les paroles qui précèdent, le médecin comprit qu'il avait affaire à quelque terrible et irrévocable détermination, et qu'il ne lui restait qu'à courber la tête et à obéir. Il appuya sa bouche sur le front glacé, couronné jadis par lui de tant de riantes espérances, et qu'il voyait en ce moment pour la dernière fois. Avec les langes, il fit une sorte de linceul, et il dit au masque noir: « Puisque vous vous êtes arrogé le droit de m'imposer votre volonté, et puisque vous êtes le plus fort, commandez. Je suis prêt. Que faut-il faire ? Suivez ces hommes. » Pierre Prost les suivit passivement. Ils le conduisirent dans l'enclos, auprès de la fosse fraîchement creusée. Là, il s'agenouilla, il plaça le cadavre au fond de cette funèbre couche, et celui des hommes qui tenait la bêche rejeta dans l'intérieur la terre amoncelée sur les bords. Au bout d'un instant, une petite éminence annonçait seule que dans cet endroit, la terre venait d'être remuée. L'ouragan grondait toujours, la neige continuait à tomber. Évidemment, le lendemain, tout aurait disparu, sous une couche blanche uniformément épaisse. Mais pourquoi donc cacher ainsi ce corps comme les mères infanticides qui enfouissent pendant la nuit les cadavres des enfants assassinés par elles? Malgré toutes les angoisses et toutes les préoccupations de sa douleur, Pierre Prost s'adressait involontairement cette question et il ne pouvait pas y répondre. Les deux hommes retournèrent vers la maison où les attendait le masque noir. Ils firent signe au médecin de les précéder. Il obéit de nouveau et toujours passivement. Il lui semblait qu'il était le jouet de quelque rêve terrible et invraisemblable, et il se disait « Dans un instant, je vais m'éveiller. Hâtez ce réveil, ô mon Dieu. Hâtez-le, car je deviens fou. »